Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est le 27e de la 9e saison. Je reçois aujourd'hui Jacques Michaud. Bonjour.
Bonjour.
Petite parenthèse pour commencer. On va faire un peu une petite exception de ce genre d'émission puisque je vous reçois aujourd'hui, Jacques Michaud. Bon, on vous connaît, mais on va vous connaître mieux. Et on va rester un petit peu dans l'histoire avec la semaine prochaine, avec Corinne Sanchez, qui mène des recherches d'archéologie, comme vous le savez.
Certes.
Voilà. Donc, on ne recevra pas d'élus politiques pendant quelque temps, mais on va vraiment se pencher 2 semaines de suite sur l'histoire de Narbonne. Alors, l'histoire, d'abord... Professionnellement, Jacques Michaud, vous avez été professeur de droit romain à la faculté de Montpellier.
Oui, c'est ça.
Mais ça vous a amené à vous pencher sur l'histoire, et notamment l'histoire narbonnaise, rapidement. Vous avez présidé, alors depuis presque des temps immémoriaux, la commission archéologique de Narbonne. Et vous êtes aujourd'hui président du comité scientifique du musée régional de la Romanité, Narbovia. Alors voilà un pédigré qui va nous permettre de tenir pendant ces trois parties de cette émission Radio Barque.
Tout
d'abord, comment êtes-vous du droit, puisque vous êtes d'abord juriste?
Oui.
Professionnellement. Comment êtes-vous arrivé à l'histoire?
Eh bien, les disciplines juridiques comportent toujours une étude du droit, d'abord essentiellement le droit positif, le droit tel qu'il est vécu, administratif, civil, pénal, etc. Mais il y a toujours des enseignements d'histoire du droit, c'est-à-dire des enseignements qui nous montrent comment les institutions actuelles se sont faites au cours des âges. Par exemple, comment étant arrivé au droit du mariage, comment s'est fait le mariage depuis les Romains, et puis à l'époque chrétienne, à l'époque féodale, etc. Et c'est le droit dans son côté dynamique, évolutif. Voilà. Donc ça vient compléter et expliquer le droit contemporain. Voilà.
Oui. Donc il est normal d'attraper le virus de l'histoire quand on est juriste.
Oui, mais il y a aussi quand même la narbonnéité.
Enfin, vous êtes narbonné. Ouais.
Et je suis né dans la rue droite. Je suis né sur la voie domitienne et près de Saint-Just. Alors j'étais imprégné de tout ça. Tout enfant, je courais dans ces rues, cette cathédrale, ce palais des archevêques, je voyais tout ça. Donc je suis resté très marqué. Et puis mes parents connaissaient bien Philippe Elena, qui était à ce moment-là conservateur du musée et qui m'a enseigné jeune, qui m'a amené dans ses fouilles et qui m'a expliqué l'histoire. Donc tout était prêt pour que je devienne maniaque de l'histoire de Narbonne.
Alors, on va bien entendu revenir en détail sur votre rôle de président du conseil scientifique du musée. Mais auparavant, alors vous avez à votre palette un certain nombre de réussites, mais il y en a une sur laquelle j'aimerais que l'on revienne un peu plus en détail avec l'explication de l'histoire. C'est le retour à Narbonne du dernier archevêque de Narbonne, Monseigneur Dillon.
Ah oui, ça c'est fameux. Ça m'a surpris moi-même.
Il est aujourd'hui enterré dans la cathédrale
de Narbonne.
Oui,
dans la chapelle Saint-Martin. Je lui ai fait une grande description en latin expliquant la joie du retour.
Alors qu'à la Révolution, avec beaucoup d'autres nobles, il était parti en Angleterre où il a fini sa vie.
Oui, alors Dillon, à la différence de bien d'autres, était très aimé de la population narbonnaise, qui lui en a surtout voulu d'être parti. On voulait qu'il reste. Mais la constitution civile du clergé le choquait, et là, il est redevenu théologien.
Oui, mais alors maintenant, il va à Londres avec beaucoup, il décède là-bas, on perd sa trace d'une certaine façon. Expliquez-nous comment, à un moment, vous est venue non seulement l'idée, mais la possibilité de faire revenir ses restes.
Ah, c'est l'histoire du destin, ça. Et il a été enterré, lorsqu'il est mort en 1806, dans le cimetière de Saint-Pancras, qui était celui où l'Église d'Angleterre enterrait les émigrés français. En 1860, lorsqu'on a créé la gare de Saint-Pancras, on a détruit toutes les tombes et on pensait que donc il n'y avait plus de traces de rien du tout. Et puis voilà qu'en 2003, on creuse le tunnel Eurostar sur le même site et qu'on s'aperçoit en dessous que on avait détruit que les substructions là-dessus, mais pas les cercueils. Et on avait le corps. Les Anglais ont découvert le corps de Arthur Richard Dillon, Archbishop of Primate of Narbonne. Mm. Et les archéologues anglais l'ont ouvert, analysé, étudié, et la nouvelle m'est parvenue par un de mes anciens étudiants anglais, que j'avais eu en cours à Montpellier, et qui, dans un anglais très savant et une oreille moins connaisseur de l'anglais que la mienne, j'ai appris qu'il y avait quelque chose qui se passait. On a cherché, on a découvert qu'effectivement, il s'agissait du corps de Mgr Dillon, entier, complet.
Entier, complet. Et alors ça, c'était donc sur les travaux de la gare de Saint-Pancras pour l'Eurostar.
Tout à fait, C'est très symbolique d'ailleurs, et Dillon nous est revenu grâce à Eurostar.
Grâce à l'Eurostar, grâce au tunnel sous la Manche.
Fantastique, je parle du destin.
Et au train Paris-Londres, Londres-Paris. Alors, donc, à partir de là, vous faites le nécessaire, les démarches administratives, ça n'a pas dû être simple quand même.
Oui, j'ai regardé un petit peu la législation anglaise, qui est d'une complication chinoise, si j'ose dire, en ce qui concerne le retour des corps. Mais là, ce n'était que des ossements. Alors, le corps avait été réduit et réinhumé ailleurs. C'était le premier problème. Alors, je suis allé voir Georges Frêche, et qui me dit, si tu récupères le corps de mon prédécesseur, car je suis son successeur comme président des États du Languedoc, donc moi je finance, débrouille-toi. Et j'ai vu Jacques Bascou, qui était alors maire de Narbonne, et il a écrit à Tony Blair. C'est ma demande, pour qu'on puisse avoir des autorisations, oui, et des facilités.
Il fallait taper haut.
Très haut, oui, parce que sinon on passait par des chinoiseries interminables. Alors donc, ça a été fait, on a la réponse de Tony Blair, et donc on était autorisé à aller le chercher. Et je suis parti avec un journaliste de Midi Libre, d'ailleurs mon ami Sid Mokhtari. Nous voilà partis à Londres en mars 2007, je l'oublierai jamais, et nous nous trouvons tous les deux à 7h du matin, dans le cimetière d'Eastfishley, à Londres, entouré de caméras, d'un coroner, un homme de droit, qui surveillait l'opération, et de toute une noblesse anglaise, parce que Dillon était d'une très grande famille, en fait, irlandaise, qui était partisan des Stuarts. Et il fait partie de la grande noblesse. Et puis, Louis XIV, il est né d'ailleurs à Saint-Germain-en-Laye, où Louis XIV avait hébergé sa famille après la chute des Stuarts.
Oui, Louis XIV lui-même étant né à Saint-Germain-en-Laye, je crois.
Et oui, c'est ça, exactement. Il est né dans le même lieu que Louis XIV. Ils étaient 10 enfants, je crois. Et donc, ça explique la carrière française de Mgr Dillon. Voilà. Et donc, on était là, à 6h du matin, en train d'essayer de récupérer le corps. Alors, on a creusé, on a retrouvé la caisse, et nous voyons apparaître une caisse en plastique, où il l'avait réinhumée, et il y avait Arthur Richard Dillon. Et puis, à côté, il y avait l'évêque d'Avranches, Godard de Belbeuf. Les Anglais m'ont dit, vous en prenez combien, alors, comme à l'épicerie.
Alors, vous
je
dis,
je n'en prendrai qu'un. J'ai séparé Dillon de son ami, de son compagnon de cimetière, et on l'a ouvert. Et c'était plein d'eau, il a fallu vider la caisse avec témoignages, attestations, et ressortir tous les ossements de Mgr Dillon.
Et alors, ce qui est amusant aussi, alors c'est une petite parenthèse, vous étiez avec Sid Mokhtari, qui était un journaliste à Midi Libre à l'époque, qui est un ancien de cette radio. Qui avait travaillé
très bien, mais voilà, mais le destin continue.
Il a été journaliste ici, à cette radio, dans les années 90.
Il a été bon compagnon de voyage, et il a filmé, et à côté de lui, il y avait la BBC avec des caméras, tout le monde filmait.
Oui, voilà. Et donc, ça a permis d'assister donc au retour, en grande pompe, si je puis dire, à Narbonne, au retour de Mgr Dillon, qui gît aujourd'hui dans sa cathédrale.
Oui, il repose dans la chapelle de Saint-Martin. Qui d'ailleurs avait été restauré quelque temps avant son épiscopat. Vous voyez, on savait pas qu'on l'a préparé comme chapelle funéraire pour le futur archevêque de Narbonne. On avait trouvé là une tombe parce que le caveau sous l'autel des archevêques n'était plus accessible. Et il y a eu tellement de changements de niveau. Alors là, on a sondé, on a trouvé la tombe d'un ancien chantre et on a réduit le corps. Là, il y avait largement de la place et c'est là que on l'a déposé le jour J.
Oui, voilà. Donc, quand vous y repensez, Jacques Michaud, à cet épisode-là, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, on a réussi un bon coup.
Alors, on a réussi un bon coup, oui, pour l'histoire de Narbonne aussi. Oui. Parce que les Toulousains, apprenant ça, voulaient le récupérer. Parce qu'il avait été archevêque de Toulouse avant d'accéder au grade supérieur de primat de Narbonne. Alors, donc, on a milité pour que le corps vienne directement de Londres jusqu'à Montpellier, où il a débarqué à Fréjorgues.
Voilà.
Et on est allé le chercher.
Donc, pour les gens qui s'y intéressent, aujourd'hui, quand on entre dans la, dans la cathédrale de Narbonne, où est-ce qu'il se trouve?
Alors, quand on entre par la rue droite, et bien, c'est la première chapelle à droite, sur la droite, de l'autre côté du bénitier, la chapelle de Saint-Martin. Et là, il y a une grande inscription qui commémore cet événement. Quoi. Et voilà, c'est toujours très visible, il n'y a pas de problème, vous pourrez le voir.
Voilà, donc ça, c'est vraiment une des grandes réussites alors, de la commission archéologique de Narbonne et de son président, en l'occurrence.
Ah oui, alors, je vais vous dire le détail. La commission archéologique qui a travaillé de façon très concrète, parce que tout le monde a été associé, et les deux médecins de la commission archéologique, aujourd'hui d'ailleurs disparus, le docteur Béraud, le docteur Alexis, ont pris la caisse que nous avions amenée de Londres, avec tous les ossements, et on a reconstitué, et c'était médecin, on a pu reconstituer tout le corps. Il ne manquait qu'un fragment du métatarse, je ne sais où, enfin, une bricole, et le crâne que j'avais moi-même essuyé avec du lophopalin le jour où on l'a exhumé, et je lui disais, monseigneur Dion, de ton temps, je n'aurais jamais pu te tripoter comme ça. Je n'étais pas de la même condition que toi. Et alors, les médecins de la commission ont reconstitué le corps. On a mis sur une mousse, dans un cercueil, qui a été offert par les pompes funèbres de monsieur Garcia. Et c'était à Trèbes, les Capucins, où il est resté. On l'a mis à sécher pendant quelques jours, pendant deux ou trois jours, avant le départ, le grand départ pour les obsèques solennelles à Narbonne, via Port-la-Nouvelle.
Oui, revenu en péniche.
Oui, il est revenu en péniche parce qu'on a voulu évoquer le grand mérite de Dion aux yeux des Narbonnais.
Le canal de la Robine.
Le canal de la Robine et la jonction avec le canal du Midi. Et au Gaillelosti, le bâtiment du Gaillelosti qui existe, a été fait au temps de Dion, il y a ses armoiries. Et donc, il avait acquis là, une reconnaissance passionnée des Narbonnais, qui voulait même lui lever un grand monument, une sorte de pyramide, au moment où la révolution a éclaté. Alors, le corps a été déposé à la Nouvelle, service solennel, dans l'église un soir, et puis le lendemain, départ sur la péniche. Et le bateau s'est arrêté à la hauteur de Grussan, dont il avait été le dernier seigneur. Grussan porte toujours les armoiries de Dion. La municipalité est montée à bord, et puis, peu à peu, par petites étapes, on est arrivé jusqu'à Narbonne, où attendait une foule énorme, à la suite d'une grande conférence solennelle, où assistaient toutes les dignités, la noblesse anglaise, les représentants des syndicats, etc., etc., les chevaliers de ceci et cela, tous les Narbonnais prévenus avaient mis leurs décorations, et puis tout ça ensuite est allé au débarcadère de Bourg pour accueillir le corps.
Voilà, et ça, c'était il y a une quinzaine d'années.
Oui, c'était en 2007, oui. Et c'était à ce moment-là, oui.
Voilà, alors ça, c'est. On va conclure, avant de marquer une pause, cette première partie, sur ce retour, alors vraiment imprévu, improbable même, de Monseigneur Dion, à la fois dans sa cathédrale, par son canal.
Et accueilli par Monseigneur Lustiger, qui est mort quelques jours après, qui a fait un effort terrible pour venir enterrer ce prédécesseur.
Qui était archevêque de Paris à l'époque.
Archevêque de Paris, qui venait de démissionner et qui était atteint d'une très grave maladie, et qui est quand même venu courageusement.
Voilà, que d'histoire avec un grand H. On marque, Jacques Michaud, une première pause.